Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, l'évangile qui nous est donné aujourd'hui est pas parmi les plus faciles à recevoir. Si vous l'avez bien écouté, il est même assez compliqué. Il arrive même qu'on nous le jette un petit peu à la figure, pour des gens qui vont jamais à la messe et qui ont jamais lu l'Écriture, mais qui savent que les chrétiens doivent tendre l'autre joue, voilà, en espérant pouvoir nous entourlouper ou nous faire du mal. Alors, voyons quelle est la sagesse, car l'Évangile est une parole vivante divine, et il y a quelque chose qui nous est dit profondément, au-delà de cette compréhension un peu rapide. Voyons d'abord le lien de la justice à la charité, pour ensuite voir l'appel à la perfection qu'est ce texte. D'abord, le lien de la justice à la charité. Il n'est pas question dans ce texte de faire l'économie de la charité. Vous l'avez d'ailleurs entendu, vous l'avez entendu dans la première lecture par le prophète Samuel. Le Seigneur rendra à chacun selon ses actes. C'est une promesse divine aussi. L'Écriture s'entend dans son intégralité. La justice, c'est justement de rendre à chacun selon son dû, de donner à chacun ce dont il a vraiment besoin, ce qu'il doit recevoir. Et ça s'appelle l'équité, c'est de pouvoir honorer chacun selon son besoin. Vous le savez, si vous avez des enfants, eh bien, on ne donne pas la même chose à tous ses enfants. Il n'y a pas d'égalité distributive. Il y a une égalité en droit, il y a une égalité en dignité. Mais dans la pratique, c'est l'équité qui est nécessaire pour que chacun puisse être honoré à la hauteur qui est la sienne. Si vous avez un enfant handicapé, eh bien, vous n'allez pas refuser de pousser son fauteuil roulant sous prétexte que vous ne poussez pas le fauteuil roulant des autres. Voilà. C'est l'équité, il nous faut rendre à chacun selon son dû. J'aurais pu prendre un exemple moins dramatique, mais je ne sais pas, si vous avez un chien et un oiseau, eh bien, vous ne nourrirez pas les deux de la même façon, et c'est équitable. Bref, l'équité est quelque chose, la justice, c'est une vertu cardinale, c'est-à-dire une vertu sur laquelle repose notre vie, toute la vie humaine. Elle est donc importante et nous ne comptons pas la bafouer. Mais dans l'invitation qui nous est faite ici à ne pas juger, il y a autre chose encore, c'est une invitation à ne pas juger nos frères. C'est-à-dire, comment être équitable et ne pas juger nos frères ? Eh bien, il nous est encore possible de juger les actes. Et les chrétiens ne sont pas appelés à être idiots. Vous n'êtes pas appelés à penser, si vous avez sur la table du Gevrey-Chambertin et de la strychnine, eh bien, vous n'êtes pas appelés à penser que oh, tout est égal. Non, tout n'est pas égal. Celui qui vous a apporté le Gevrey-Chambertin vous veut du bien. Celui qui vous a apporté de la strychnine vous veut du mal. Il y a un acte bon et un acte mauvais. Et vous n'êtes pas appelés à être bêtes. Mais voilà, vous êtes appelés à juger des actes dans leur objectivité, c'est-à-dire dans leur réalité, ce qu'ils sont dans leur réalité. Vous êtes invités à ne pas l'imputer à l'âme de votre frère, c'est-à-dire à détacher l'acte de la personne afin de ne pas mettre la main sur une âme, car Dieu seul possède les âmes. Voilà ce qui est de la justice. Vous ne serez pas bon en étant injuste. C'est une erreur profonde, qui a parfois lieu, hein, de deux manières. Parfois, par hypocrisie, il faut bien le dire. Par exemple, eh bien, je rencontre quelqu'un dont personne ne veut, parce que personne ne veut l'embaucher, parce qu'il n'a pas beaucoup de qualifications, qu'il n'est pas très brillant. Alors, je l'embauche par charité. Donc, je ne le payerai pas, parce que c'est par charité que je l'embauche. Eh bien non, c'est un acte injuste. Et donc, de cet acte injuste, vous ne ferez jamais un acte de charité. Inversement, ou plutôt d'une autre manière, il arrive très souvent qu'on croit être bon en n'étant pas juste, c'est-à-dire en abandonnant le devoir qui est le nôtre. Des parents qui ne mettraient pas en garde leurs enfants contre le mal, des parents qui n'exigeraient pas de leurs enfants qu'ils soient à l'heure, qu'ils fassent leurs devoirs, etc., etc., ben, serait injuste avec eux, se croyant bon en les laissant faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, ça c'est pas de la charité, c'est du charitanisme, c'est de se payer assez rapidement d'un pseudo-acte de charité pour négliger la justice. Il ne s'agit pas de ça. L'invitation que le Seigneur nous fait ici est d'entrer dans sa propre charité. Cette charité qui, pour le coup, est une vertu théologale, c'est-à-dire qui ne repose pas sur l'organisation humaine, qui n'est pas le fonctionnement humain habituel, qui est une élévation de ce que nous vivons spirituel. C'est une élévation, saint Thomas d'Aquin dit, la charité parfait toutes les vertus. Mais il faut qu'elles existent d'abord. La charité ne remplace pas les autres vertus, elle les parfait. Elle les amène là où la justice s'arrête, c'est-à-dire que si vous espérez la justice et rien que la justice, eh bien à un moment ou un autre, vous allez être coincé. Si par exemple, vous exigez tout en pure justice, eh bien il y a fort à penser que les relations de charité, c'est-à-dire les relations d'amour, ne puissent perdurer. Car une relation d'amour, une relation amicale, ne repose pas uniquement sur la stricte justice, mais sur un don supérieur qui sans cesse remet de soi-même. C'est cette charité-là à laquelle nous sommes invités vraiment, c'est-à-dire à entrer dans l'acte même de Dieu, à participer de ce qu'il est en vérité, le Seigneur est charité, Deus caritas est, il est amour, c'est-à-dire il est un échange perpétuel, un don perpétuel. Voilà pourquoi il n'est pas seul, il est Trinité, il est un, mais il n'est pas seul, il est un échange de personne à personne qui se donne. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, à cette charité qui fait participer de Dieu. Alors je vois dans un deuxième plan, cette perfection chrétienne, comment se manifeste-t-elle? Car il est beau de dire qu'on participe de Dieu, mais comment allons-nous faire? Il y a un appel et un combat. Tout d'abord un appel à vivre la fraternité et un appel à vivre de la filiation divine. Un appel à vivre la fraternité, car le texte que nous venons d'entendre, si vous le connaissez dans saint Luc, c'est un appel à la fraternité. Le Seigneur vient d'appeler ses 12 disciples, en faire des apôtres. Il vient de leur donner les béatitudes. Chez saint Luc, c'est 4 bénédictions et 4 malédictions. Et il leur donne immédiatement les consignes que nous venons d'entendre. C'est-à-dire qu'il est en train de fonder la vie fraternelle. Il n'est pas en train de parler de la justice de ce monde. Il est en train de dire comment on peut élever ce monde jusqu'à une dimension divine. Et cela passe, le texte nous le dit clairement, par le pardon. Le pardon, c'est la capacité que j'ai de donner par-dessus la justice. C'est-à-dire à pouvoir continuer à donner par-delà le mal, par-delà l'obstacle, pour continuer de vivre. Peut-être en avez-vous déjà fait l'expérience, si un de vos amis vous trahit, vous pouvez l'abandonner. C'est possible. Mais ce que vous pouvez faire avec une connaissance ou un ami, et cela est déjà dommageable, par exemple, vous ne pouvez pas le faire en famille. Que seraient les parents et les enfants si à chaque déception, à chaque trahison, pas tous les jours, mais ça peut arriver, les parents décidaient de n'être plus les parents. Parce que, en stricte justice, et ça arrive, hein, je le connais souvent, j'ai une tante qui ne parle plus à son fils ni à ses petits-enfants, parce que il ne s'est pas excusé. Magnifique. Elle a raison. Il n'a pas été poli. Il aurait dû s'excuser. Et en justice, je l'appuie. Mais elle est folle. Elle est complètement folle. Et je lui ai dit, alors vous ne parlerez plus jamais à votre fils unique, et à ses 3 enfants que vous ne connaîtrez jamais. Vous êtes folle de réclamer la justice là où par-delà un acte mauvais, il fallait continuer de donner, de pardonner. C'est la seule solution pour vivre ensemble et pour s'aimer, c'est de pardonner. C'est la condition essentielle de la vie commune, c'est le pardon. En fait, c'est vrai en famille, c'est vrai entre époux, c'est vrai entre paroissiens, c'est vrai dans toute communauté chrétienne, et l'ami dont vous vous êtes séparé vous manquera aussi sûrement que s'il vous avait été quelqu'un de votre famille. Nous sommes appelés à entrer dans cette fraternité, à pardonner, à donner par-delà le mal. Et celui qui te prend ta tunique, donne-lui encore ton manteau, dit l'Écriture. C'est illustré chez Victor Hugo par Jean Valjean, vous savez, qui dévalise le bon père qui l'a accueilli. Et quand les gendarmes, en lui volant ses couverts, en argent, Et quand il ramène cette personne au prêtre pour qu'il le dénonce et porte plainte, le prêtre s'écrie « Mais mon ami, pourquoi es-tu parti si tôt ? Je t'avais donné aussi les chandeliers. Alors prends-les. » Voilà cet acte qui n'est pas un acte de justice, qui est un dépassement, qui va bouleverser la vie de Jean Valjean et qui va faire de cet homme un bagnard mauvais, un homme bon. Il nous faut donner comme le Père donne. Il nous faut donner aux méchants et aux bons, non pas parce que nous serions idiots, mais parce que c'est le seul moyen de vaincre le mal et c'est ça notre combat. Il nous faut noyer le mal dans un océan de bien. Il nous faut recréer, coopérer à la création là où il y a la destruction. Le mal, toujours et partout, est une absence de bien. Le mal est une absence de Dieu. Le mal est un trou noir qu'il nous faut remplir par la création, par le bien qui est Dieu et qui reconstitue. Voilà le combat auquel nous sommes appelés, ce divin appel que nous avons entendu aujourd'hui, ce n'est pas un appel simplet, c'est un appel nécessaire à constituer et à créer le monde. Alors je ne voudrais pas m'arrêter sur une élévation aussi grande, sans vous dire que ce matin, je n'étais pas ici, j'étais ailleurs, dans Paris, et dans une autre maison religieuse, et croisant un bon père, je le salue, et il refuse de me répondre. Peut-être n'étions-nous pas habillés d'une manière idoine pour nous saluer. Voilà peut-être où sont d'abord nos premiers ennemis, ce sont déjà nos frères. Méfions-nous bien que nous ne soyons pas en train de renier ceux-là même que le Seigneur nous a donnés les uns aux autres.